très brun, le front fuyant, la face en bec d'oiseau, avec un grand nez et un menton très court. Il avait la joue gauche sensiblement plus grosse que la droite. Et le docteur obtenait des résultats miraculeux sur cet impulsif, qui, depuis un mois, n'avait pas eu d'accès. Justement, la gardienne, questionnée, répondit que Sarter, calmé, allait de mieux en mieux. « Tu entends, Clotilde ?» s'écria Pascal, ravi. « Je n'ai pas le temps de le voir ce soir. Nous reviendrons demain. C'est mon jour de visite. Ah, si j'osais, si elle était jeune encore !» Ses regards se reportaient sur Tante Dide. Mais Clotilde, qui souriait de son enthousiasme, dit doucement « Non, non, maître, tu ne peux refaire de la vie. Allons, viens, nous sommes les derniers. » C'était vrai. Les autres étaient sortis déjà. Macquart, sur le seuil, regardait s'éloigner Félicité et Maxime de son air de se ficher du monde. Et Tante Dide, l'oubliée, d'une maigreur effrayante, restait immobile, les yeux de nouveau fixés sur Charles, au blanc visage épuisé sous sa royale chevelure. Le retour fut plein de gêne. Dans la chaleur qui s'exhalait de la terre, le landau roulait pesamment. Au ciel orageux, le crépuscule s'épandait en une cendre cuivrée. Quelques mots vagues furent échangés d'abord, puis, dès qu'on fut entré dans les gorges de la Seille, toute conversation tomba, sous l'inquiétude et la menace des roches géantes, dont les murs semblaient se resserrer. N'était-ce point le bout du monde ? N'allait-on pas rouler à l'inconnu de quelque gouffre ? Un aigle passa, jeta un grand cri. Des saules reparurent, et l'on filait au bord de la Viorne, lorsque Félicité reprit, sans transition, comme si elle eût continué un entretien commencé. « Tu n'as aucun refus à craindre de la mère. Elle aime bien Charles, mais c'est une femme très raisonnable. » Et elle comprend parfaitement que l'intérêt de l'enfant est que tu le reprennes. Il faut avouer, en outre, que le pauvre petit n'est pas très heureux chez elle, parce que, naturellement, le mari préfère son fils et sa fille. Enfin, tu dois tout savoir. » Et elle continua, voulant sans doute engager Maxime et tirer de lui une promesse formelle. Jusqu'à Plassans, elle parla. Puis, tout d'un coup, comme le landau était secoué sur le pavé du faubourg. « Mais tiens, la voilà, la mère, cette grosse blonde sur cette porte !» C'était au seuil d'une boutique de bourreliers où pendaient des harnais et des licous. Justine prenait le frais sur une chaise en tricotant un bas, tandis que la petite fille et le petit garçon jouaient par terre, à ses pieds. Et derrière eux, on apercevait, dans l'ombre de la boutique, Thomas, un gros homme brun, en train de recoudre une selle. Maxime avait allongé la tête, sans émotion, simplement curieux. Il resta très surpris devant cette forte femme de 32 ans, à l'air si sage et si bourgeois, chez qui rien ne restait de la folle gamine avec laquelle il s'était déniaisé, lorsque tous deux, du même âge, entraient à peine dans leur 17e année. Peut-être eut-il seulement un serrement de cœur, lui, malade et déjà très vieux, à la retrouver embellie et calme, très grasse. « Jamais je ne l'aurais reconnue, » dit-il. Et le landau, qui roulait toujours, tourna dans la rue de Rome. Justine disparut. Cette vision du passé, si différente, sombra dans le vague du crépuscule, avec Thomas, les enfants, la boutique. À la souleillade, la table était mise. Martine avait une anguille de la Viorne, un lapin sauté et un rôti de bœuf. 7 heures sonnaient. On avait tout le temps de dîner tranquillement. « Ne te tourmente pas !» répétait le docteur Pascal à son neveu. « Nous t'accompagnerons au chemin de fer. Ce n'est pas à 10 minutes. Du moment que tu as laissé ta malle, tu n'auras qu'à prendre ton billet et à sauter dans le train. » Puis, comme il retrouvait Clotilde dans le vestibule, où elle accrochait son chapeau et son ombrelle, il lui dit à demi-voix « Tu sais que ton frère m'inquiète. »« Comment ça ?»« Je l'ai bien regardé. Je n'aime pas la façon dont il marche. Ça ne m'a jamais trompé. Enfin, c'est un garçon que la taxi menace. » Elle devint toute pâle. Elle répéta « La taxi ?» Une cruelle image s'est élevée, celle d'un voisin, un homme jeune encore, que, pendant 10 ans, elle avait vu traîner par un domestique dans une petite voiture. N'était-ce pas le pire des maux, l'infirmité, le coup de hache qui sépare un vivant de la vie ? « Mais, murmura-t-elle, il ne se plaint que de rhumatisme !» Pascal haussa les épaules, et, mettant un doigt sur ses lèvres, il passa dans la salle à manger, où déjà Félicité et Maxime étaient assis. Le dîner fut très amical. La brusque inquiétude, née au cœur de Clotilde, la rendit tendre pour son frère, qui se trouvait placé près d'elle. Gaiement, elle le soignait, le forçait à prendre les meilleurs morceaux. Deux fois, elle rappela Martine, qui passait les plats trop vite. Et Maxime, de plus en plus, était séduit par cette sœur si bonne, si bien portante, si raisonnable, dont le charme l'enveloppait comme d'une caresse. Elle le conquérait à un tel point que peu à peu, un projet, vague d'abord, se précisait en lui. Puisque son fils, le petit Charles, l'avait tant effrayé avec sa beauté de mort, son air royal d'imbécilité maladive, pourquoi n'emmènerait-il pas sa sœur Clotilde ? L'idée d'une femme dans sa maison le terrifiait bien, car il les redoutait toutes, ayant joui d'elle trop jeune. Mais celle-ci lui paraissait vraiment maternelle. D'autre part, une femme honnête, chez lui, cela le changerait et serait très bon. Son père, au moins, n'oserait plus lui envoyer des filles, comme il le soupçonnait de le faire, pour l'achever et avoir tout de suite son argent. La terreur et la haine de son père le décidèrent. « Tu ne te maries donc pas ? » demanda-t-il, voulant sonder le terrain. La jeune fille se mit à rire. « Oh, rien ne presse !» Puis, d'un air de boutade, regardant Pascal qui avait levé la tête, « Est-ce qu'on sait ? Je ne me marierai jamais !» Mais Félicité